Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit à jamais les très saints noms de Jésus, de Marie et de Joseph. Chers auditeurs de Radio Don Bosco, nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors ce matin, nous sommes samedi 10 mars 2012, nous vous proposons un commentaire d'un tableau. On en a fait beaucoup par écrit. Et puisqu'on a commencé les enregistrements, il nous est venu l'idée de faire le commentaire d'un tableau enregistré, vocalement. Alors aujourd'hui, nous allons commenter La Vierge à l'enfant, un des deux panneaux du diptyque de Jean Gros de Roger van der Weyden, qui se trouve aujourd'hui à Tournai au musée des Beaux-Arts. Alors, ce matin, en fait, c'était pendant qu'on était en train de se réveiller, on était en train de penser au regard de la Sainte Vierge. Et je me disais, je ne sais pas dans quel sens, je connais bien ce tableau parce que je le regarde tous les jours, mais je n'ai pas mémorisé dans quel sens elle regarde. Alors, quand je me suis levé, j'ai regardé le tableau, puis j'ai vu la direction du regard, et puis finalement, on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas remarqué encore sur cette image, à savoir que la double rotation de la scène du puits, elle est bien présente dans ce tableau. Parce qu'en fait, le regard de la Vierge Marie il se tourne sur la droite en descendant. Et finalement, si on prolonge le mouvement, on remarque que l'enfant Jésus, il tourne son regard dans le même sens, mais vers le haut, alors que lui, il est positionné plus à gauche. Donc finalement, ces deux regards, ils dessinent une rotation dans le premier sens de la rotation de la scène du puits, c'est-à-dire celui qui est indiqué par les flèches, de la flèche de la lance, la flèche de la croix propulseur, l'orientation de l'oiseau, et l'orientation de la tête de l'homme-oiseau. Donc on a ce premier mouvement de rotation qui s'inscrit parfaitement dans l'arc de cercle que dessine le corps de l'enfant Jésus. Voilà. Et le deuxième mouvement de rotation. Alors ça, on en a beaucoup parlé dans les lettres encycliques, il est très évident aussi. Alors sur la scène du puits, vous savez que c'est, enfin, si vous avez lu les encycliques, mais autrement, remarquez bien, sur la scène du puits, le deuxième mouvement de rotation, c'est les cornes du bison et le sexe en érection de l'homme-oiseau, qui font un mouvement de rotation dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, évidemment, eh bien, ce mouvement de rotation, il est dessiné par le sein de la Vierge Marie, par le bras courbé de l'enfant Jésus qui fait un arc de cercle lui aussi, et la main gauche de l'enfant Jésus qui est dressée et qui représente bien évidemment le sexe de l'homme-oiseau, le sexe en érection de l'homme-oiseau. Qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître d'autres motifs. Par exemple, regardez bien l'auréole de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. C'est extraordinaire, parce qu'on ne pourrait pas remarquer peut-être à premier abord que c'est une reproduction de la scène du puits, parce que cette auréole, elle est dessinée exactement comme on avait coutume de la dessiner très souvent dans les représentations. Et ça, les peintres qui ont fait des reproductions de la scène du puits ont utilisé beaucoup des choses qui étaient déjà présentes dans l'art, des motifs qui étaient déjà présents dans l'art depuis plus ou moins longtemps, et ils s'en sont servis pour reproduire un motif de la scène du puits. Un des plus étonnants, c'est cette fameuse Marie-Madeleine qui lève les bras au ciel. Bon, c'est pas Roger van der Weyden qui a inventé ça, parce qu'on le trouve déjà dans la peinture italienne, et ça doit venir très probablement de la peinture byzantine. Et il s'est servi de ce motif pour reproduire le deuxième taureau de la salle des taureaux de la grotte de Lascaux. Alors ici, l'auréole, on voit, elle fait des pointes, il y a des traits qui tout autour du visage de la tête de la Vierge Marie, des traits tout autour de la tête de l'enfant Jésus, l'auréole de l'enfant Jésus, exactement le même aspect, sauf que celle de l'enfant Jésus, évidemment, elle est plus petite parce que sa tête est plus petite. Donc vous voyez, ça fait une sorte des creux et des bosses. Ça fait comme des montagnes et des vallées. Ben, si vous regardez la scène du puits, vous voyez qu'on a exactement ça sur le dos du bison. Vous voyez, le dos du bison, la moitié avant, on voit des poils qui sont hérissés et qui dessinent une pointe de montagne, une vallée et puis une pointe de montagne. Puis derrière, c'est lisse. Ces deux pointes et ce creux qui sont dessinés par des traits, c'est exactement l'auréole de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Donc finalement, ce motif, c'est une reproduction de la scène du puits. Ben, on peut le savoir parce qu'on peut reconnaître la scène du puits dans d'autres motifs évidents. Voilà. Alors. Oui, et les regards aussi. Alors les regards, on a dit qu'ils dessinaient ce premier sens de rotation. Mais sur la scène du puits, ces regards suivent aussi le premier sens de la rotation, à savoir le bison, il a l'œil qui regarde en arrière. Alors en fait, il semblerait bien que vraiment l'œil, la tête est tournée vers le bas, vers les entrailles ouvertes. Mais si on regarde bien la pupille de l'œil, il semblerait bien finalement que le regard soit carrément dirigé sur l'arrière du bison. Voilà. En tout cas, c'est sûr que le regard est vers la droite. Après, est-ce qu'il regarde sur l'arrière ou sur la blessure, sur les entrailles ouvertes, c'est l'un ou c'est l'autre? Effectivement, la Vierge Marie, elle regarde dans cette direction. Et l'enfant Jésus, elle a la tête baissée, comme le bison. Alors que l'enfant Jésus, puisqu'il est à demi allongé, il est tenu dans les bras de la Vierge Marie. Lui, il regarde en l'air, comme l'homme oiseau. Donc en fait, les regards de la Vierge Marie et de l'homme oiseau, ils suivent bien le regard du bison et de la Vierge Marie. Enfin, les regards de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus suivent bien les regards du bison et de l'homme oiseau. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque encore? Les mains de la Vierge Marie. Alors on a cette très belle main, c'est avec ses longs doigts qui sont posés sur le ventre de l'enfant Jésus. Eh bien, ces doigts, qui sont bien bien séparés les uns des autres, finalement, ils dessinent les traits qui dessinent les entrailles du bison. Et il semblerait bien que là, mais non, mais c'est même certain, franchement, c'est certain. Cette main-là, elle dessine en fait les entrailles du bison, parce que vous savez que ben, il y a plusieurs lectures possibles. Jésus, on peut le voir dans le bison, on le voit dans l'homme oiseau, évidemment, il a les bras en croix. On le voit dans le bison, parce que c'est lui qui est blessé. On le voit aussi dans l'oiseau, parce que c'est lui qui est élevé sur un piquet. Hein, comme le serpent de Moïse au désert. Hein, c'est Jésus lui-même qui dit ça à Nicodème. Hein. Comme Moïse a élevé le serpent, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3. Et Jésus n'a pas eu honte d'être comparé à un animal, hein. Faut pas oublier ça. Hein. Alors bon, là c'est un oiseau. Dans la Bible, c'est un serpent. Un serpent dressé sur un mât. Là, on a un oiseau dressé sur un mât. Donc le bison, c'est aussi Jésus, évidemment. Le bison blessé, avec les entrailles ouvertes. Alors, Jésus, il a été blessé aux pieds, aux mains, enfin, il a été blessé partout, en fait. Mais c'est le côté qui a été ouvert. Bon. Mais Jean Vanneck, il a très bien reconnu dans cette blessure du bison, en fait, la blessure de Jésus. Si vous regardez aussi la crucifixion de Jean Vanneck, vous verrez que il y a une blessure qui est sur les os, un trait rouge qui est sur les os, mais il y en a un qui est beaucoup plus grand et qui se trouve sur l'abdomen. Donc il a vraiment voulu représenter la blessure, les entrailles, l'ouverture des entrailles du bison. Et là, Roger van der Weyden fait pareil. Il montre sur le ventre de l'enfant Jésus ses doigts de la Vierge Marie qui représentent le... qui représentent les entrailles ouvertes du bison. Alors vous savez, les entrailles, c'est l'amour de Dieu. C'est, on retrouve ça dans le cantique de Zacharie. Dans le cantique de Zacharie. On va le chercher, on n'a pas pensé à... Le cantique de Zacharie. Voilà. Ad Adam scientiam salutis plebiseius in remissionem peccatorum. Voilà, il parle de son fils. Voilà, tu marcheras devant la face du Seigneur pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de ses péchés. Par les viscères de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels est venu nous visiter l'astre qui monte à l'Orient. Ben cet astre, c'est Jésus. Mais Jésus, eh ben c'est Zacharie qui raconte ça. Il est venu nous visiter par les viscères de la miséricorde de notre Dieu. Per viscera misericordiae Dei nostri. C'est très clair. Roger van der Weyden, Vanneck, qui lisait la Vulgate, il connaissait ce mot viscera misericordiae Dei nostri. Évidemment, ils l'ont reconnu dans les viscères de ce bison. Ça va de soi. Alors c'est pour ça que ben Jésus, pourquoi il est né? C'est magnifique. Et tous les tableaux de l'enfant Jésus avec la Vierge Marie représentent la nativité, l'incarnation. Pourquoi est-ce que Jésus, il est né? Pourquoi il s'est fait homme? Ben pourquoi le Fils de Dieu s'est fait homme? Et pourquoi Jésus est né? Ben, c'est pour nous donner cet amour de Dieu. Ces entrailles de miséricorde, ces viscères de miséricorde, viscera misericordiae Dei nostri. On trouve encore, alors là c'est le pouce et les autres doigts de la Vierge Marie qui font un angle, une sorte de pas de doigt. Et évidemment, bon, mais c'est la patte la plus en avant du bison. C'est-à-dire, on voit. Les pattes de derrière, elles sont fourchues aussi, hein. Celle, la patte avant droite, on voit pas très bien qu'elle est fourchue, même si ça, en bas de la patte, ça s'élargit. Mais la patte avant gauche, bon, ben là, c'est très net, elle a une forme de fourche. Bon, ça, les peintres ont beaucoup représenté cette fourche-là. Et il faut savoir que dans la loi de Moïse, la patte fourchue, c'est un des critères pour déterminer si un animal est pur ou impur. Et ceux qui ont une patte fourchue, c'est un critère qui permet de déterminer qu'un animal est pur. On ne sait plus exactement où ça se trouve, mais enfin bon. Et je crois que c'est dans le Lévitique, hein. Et bon, bah, ça s'applique parfaitement à la Vierge Marie, qui est la toute sainte, la toute pure. Il n'y a pas de tache en toi. Tu es toute belle, ma bien-aimée, il n'y a pas de tache en toi. Et puis, alors, la main, alors ça c'est extraordinaire. La main gauche, la Vierge Marie, qui tient le téton pour donner le sein à son enfant. Bon. Vous trouverez ce geste, bien sûr, chez Jean Van Eyck, un tableau absolument magnifique, extraordinaire. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Enfin bon. Ah, il faudrait trouver là comment il s'appelle ce tableau. On a oublié. Alors. Voilà, c'est la Vierge de Luc. Ouais, la Vierge de Luc. Voilà. Il a montré toute cette tendresse maternelle. Il a observé son épouse, hein. On sait qu'il a commencé à dessiner, que la période où il a dessiné ses tableaux corresponde juste après à la période qui vient juste après son mariage, où il a eu son premier enfant. C'est évident, il a observé son épouse et son enfant pour représenter la Vierge Marie et l'enfant Jésus. C'est magnifique. Hein, c'est ça le mystère de l'incarnation. C'est vraiment une vraie femme, c'est vraiment un vrai homme, un vrai petit bébé. Alors je dis, ben, pour observer Dieu et sa mère, eh ben, je vais regarder ma femme et mon fils. Alors, on voit déjà ça sur la Vierge de Luc, la Vierge Marie qui tient son téton pour le donner à l'enfant Jésus, qui là, il boit goulûment. Mais là, sur le tableau de Jean Van Eyck, il y a une petite différence. C'est qu'il a très nettement séparé le majeur et les autres doigts, ce qui fait que elle tient le téton avec deux doigts seulement. Et pas seulement avec l'index et les autres doigts de la main, avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Alors ces deux doigts et ce téton. C'est évident. Les deux doigts là, ils dessinent quoi? Ben, ils dessinent les cornes du bison. Remarquez, Jésus, il a une main qui dessine le sexe, et elle a une main qui dessine les cornes, c'est-à-dire les deux objets qui nous montrent le deuxième sens de rotation de la scène du puits. Même s'il y a aussi un peu les pieds aussi, on voit les pieds de l'enfant Jésus sont bien dressés pour montrer les pieds dressés de l'homme oiseau. Et voilà, c'est ça qui est extraordinaire. On va conclure là-dessus. On pourrait encore parler des oreilles peut-être, avant de conclure. Remarquez bien les oreilles aussi. Il y a une belle symétrie. Il y a l'oreille. L'oreille droite visible de l'enfant Jésus avec le regard. Pareil pour la Vierge Marie, ça. Ils sont cette oreille et ce regard, ils sont inscrits dans ce sens de rotation. Alors c'est un sens très clair. Dieu nous parle, nous l'écoutons, et parce que nous avons écouté sa parole, nous tournons notre regard vers lui. Ça commence toujours par un appel. Et puis, c'est un appel à la contemplation. Dieu nous appelle à la contemplation. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Eh bien, si on est docile à son commandement, on regarde, effectivement. Et bon, si on regarde les merveilles que Dieu qui a fait pour nous, forcément, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir des merveilles, ça va de soi. Et de merveille en merveille, comme dit saint Paul, hein? De merveille en merveille. Nous sommes transformés de nous-mêmes. Ensuite, nous sommes transformés en. Nous sommes emportés dans la gloire du Christ. Je crois que c'est dans les Romains qui raconte ça. Je crois que c'est dans la lettre aux Romains. Non, je sais plus. C'est peut-être les Corinthiens. Bon, je trouve pas. Enfin, bref. Et voilà. Puisque c'est. Ah oui, on avait quand même choisi un texte. Puisque, bon, là, c'est le premier enregistrement qu'on fait. On l'a écrit 50 fois déjà, mais On l'a pas encore enregistré. Où est-ce que les peintres ont trouvé cette idée de représenter le sexe en érection de l'homme oiseau par la main de l'enfant Jésus ou d'autres mains sur d'autres tableaux? Mon Dieu, ce motif, on le retrouve beaucoup, beaucoup chez Jérôme Bosch, par exemple. Bon, bah ils n'ont rien inventé, hein. Alors, bah, si vous avez déjà lu les encycliques, vous savez déjà ce que je vais vous lire. Mais on va le relire. Alors, c'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5. Bon, c'est splendide, hein. Là, on est vraiment c'est vertigineux tellement c'est beau. Dilectus meus misit manum suam per foramen et venter meus intremuit ad tactum eius. Dilectus meus, mon bien-aimé, missit. Missit, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire envoyer, la mission. Ite missa est, la messe, c'est le même mot. Alors, dilectus meus, missit manum suam per foramen. Mon bien-aimé a envoyé ou lancé, c'est le même mot, sa main par le trou. Et venter meus intremuit. Et mon ventre a tremblé, a tactum meus, à son toucher. Alors évidemment, c'est clair. Dans le Cantique des Cantiques, on parle de quoi? Ben, on parle de deux amoureux. Hein. Faut pas raconter des histoires. C'est tellement évident. Mais les amoureux, quand ils sont amoureux, ben, ils en viennent forcément un moment, bon, à faire l'amour. Eh ben, c'est comme ça, l'union sexuelle des amants dans la Vulgate, c'est comme ça qu'elle est décrite. Mon bien-aimé a lancé sa main par le trou. Eh ben oui, sa main. Donc c'est très clair que dans le Cantique des Cantiques, dans la Sainte Bible, eh ben la main est utilisée comme image pour parler du phallus. Alors tout simplement, bah, tout simplement c'est vertigineux tellement c'est beau, mais d'un autre côté c'est tout simple, il suffisait de reprendre l'image. Et puis c'est tellement important, parce que ils ont vu, ils ont fait le parallèle, ces peintres absolument extraordinaires, même ils sont géniaux, mais vous savez, ils sont aussi prophètes. Hein, c'est des prophètes, pour faire des choses aussi extraordinaires, ils étaient forcément prophètes. Ils ont vu dans la scène du puits quelque chose. Bon. C'est parmi les plus grands peintres au monde. Donc c'était vraiment des gens qui étaient absolument capables de reconnaître à quel point une peinture est formidable, extraordinaire, merveilleuse, prodigieuse. Nous, bon, c'est la peinture rupestre la plus célèbre au monde, la Seine du Puy. Elle a étonné les gens quand on l'a redécouvert. Bon, nous, elle nous étonne tous. Mais imaginez ces peintres absolument gigantesques, sont Jean Van Eyck, Roger van der Weyden, Jérôme Bosch, c'est des géants de la peinture. Comprenez combien ils étaient à même de reconnaître le génie qu'il y avait à Lascaux. À quel point c'était génial. Et alors ils ont vu dans ce tableau, ils ont dit, mais oui, c'est ça. En tout cas, il nous semble que c'est Jean Van Eyck qui est le premier à trouver. Bon, après peut-être qu'on trouvera d'autres peintres, on verra qui ont su interpréter la scène du puits avant Jean Van Eyck, mais il nous semble que c'est Jean Van Eyck qui a trouvé le premier. Et bah ils ont dit, mais non, mais oui, c'est clair. Voilà, on a la preuve très claire que Jésus et Marie, ils sont des amants. Et puis après, ils ont dû chercher dans la Bible, ils ont dit, mais, je sais pas, ils ont lu la Bible, ils lisaient la Vulgate à l'époque, ils parlaient latin. Bon, peut-être pas tous, mais en tout cas, Jean Van Eyck, c'est sûr, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il connaissait le latin, très certainement le grec, si ça se trouve, il connaissait l'hébreu même. Parce que des fois, dans ces tableaux, on trouve des motifs qui correspondent au texte hébreu. Bon. Et puis, on a un témoignage d'un historien de l'art italien du 15e ou 16e siècle, qui disait que Jean Van Eyck, il connaissait la littérature, il connaissait les lettres. Bon, il lisait. Et puis, vous savez, ils ont fait aussi les illustrations comment dire, des miniatures. Bah, quand on fait des miniatures, forcément, on s'intéresse un peu au texte qu'il y a dedans, je pense, c'est logique. Donc, ils connaissaient bien la Bible. Alors, ils ont trouvé dans la Bible, mais ils ont trouvé, et puis, Ils ont vu dans le Cantique des Cantiques, quand on cherche une histoire d'amour dans la Bible, c'est pas compliqué, hein. Le Cantique des Cantiques, c'est tout petit, ça fait 8 chapitres. C'est en plein milieu de la Bible d'ailleurs. Si vous regardez, c'est en plein milieu. J'ai pas compté les pages, mais à vue d'œil, franchement, c'est en plein milieu. Bon, ben on va regarder le Cantique des Cantiques, et puis on trouve cette histoire. Ouais. Mon bien-aimé a lancé sa main par le trou. Bon, alors en fait, finalement, c'était déjà marqué dans la Bible. Je veux dire, la scène du puits, elle vient pas apporter quelque chose de nouveau à la foi. Vous savez, on ne peut pas ajouter quelque chose à la Sainte Bible. Tout a été dit par le Christ. Tout est dans la Bible. Bon, bah alors il faut chercher dans la Bible. Seulement, des fois, on lit la Bible et on n'arrive pas à la lire. On ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Bon, voilà, c'est très clair. Ouais, c'est Jésus et Marie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'amour. Bon, bah finalement, c'est marqué dans la Sainte Bible que Jésus et Marie font l'amour. Eh ben oui. Alors ils ont dit, ben voilà, on a une peinture prophétique qui vient de je sais pas quand. Nous, maintenant, on sait à peu près que c'est il y a 17 000 ans. Mais à l'époque, eux, ils n'en avaient aucune idée. Bon, ils devaient bien se douter que c'était assez vieux, mais ils ne pouvaient pas savoir de combien ça datait. On a une peinture prophétique qui nous montre effectivement que Jésus et Marie sont des amants. Oui, ben justement, c'est marqué dans la Bible. Alors, on va unir dans notre peinture, dans nos tableaux, mais même dans notre œuvre complète, parce que franchement, Roger van der Weyden, il a consacré toute sa carrière à la scène du puits, du début jusqu'à... Enfin, du début, peut-être pas le tout début, mais en tout cas, tout ce qui nous est parvenu, il y a la scène du puits partout. Bon, sauf peut-être dans les portraits. Je ne sais pas si on cherche bien, on peut peut-être arriver à les trouver. À la trouver, mais dans tous les autres tableaux, elle est partout, la scène du puits. Vraiment, il a consacré sa vie à la scène du puits. Et Roger et Jean Van Eyck, à partir de la crucifixion, aussi. Alors, donc ils ont dit, bon ben voilà, il y a vraiment un lien très fort entre cette scène du puits et ce passage du Cantique des Cantiques. Et ben nous, on va faire des tableaux dans lesquels on va unir parfaitement et la scène du puits et ce passage du Cantique des Cantiques. Donc, on va montrer Jésus, enfin Roger van der Weyden, il a pensé à ça. Il a pensé à ça, ben je vais montrer l'enfant Jésus avec la main qui représente le phallus, sachant que cette image, je l'ai puisée dans le Cantique des Cantiques. Voilà. On voulait conclure sur quelque chose. Et on a oublié. Ah oui, non, ça y est, ça revient. Donc, voilà, on a ce sein de la Vierge Marie qui est tenu par deux doigts, qui représentent les cornes. Alors là, c'est pareil. Là, la main de l'enfant Jésus, elle représente le phallus, en érection. Et la main de la Vierge Marie, les deux doigts de la Vierge Marie. Remarquez aussi que les deux doigts de l'enfant Jésus sont séparés parce que si vous regardez bien, bon, il faut une bonne photo, il faut une bonne image, mais sur celle qu'on a mise sur Internet, vous pourrez le voir. Le sexe en érection, il est dessiné, effectivement, il y a deux traits. C'est très curieux parce qu'un sexe, normalement, ça ne fait qu'un seul trait, mais là, il y en a deux. Bon. Et ça donne un aspect d'éclair. Ça ressemble à un éclair, très très clairement, ça ressemble très clairement, ça ressemble à un éclair. Bon, oui, bah l'éclair, forcément, ça fait penser à l'éjaculation aussi. Donc c'est extraordinaire à quel point tout dans la peinture, on peut même mettre le mouvement, quoi. C'est-à-dire la peinture, elle se met à s'animer devant nos yeux parce qu'on remarque que le sexe, il est dessiné comme un éclair. Bon, bah, on voit non seulement le sexe, mais en plus on voit l'éjaculation, quoi. Alors, elle a dessiné aussi Roger van der Weyden. Les deux doigts séparés, très certainement pour montrer encore une fois de plus, oui, mais c'est bien la scène du puits que j'ai voulu représenter, parce que si vous regardez bien, eh ben, ce sexe en érection, on voit deux traits. Bon, ils sont pas au même endroit, il y en a un qui est plus court et un autre qui est plus long. Mais ils devaient bien respecter la dimension des doigts. Même si des fois, il y a des artistes qui se sont permis de changer les proportions pour mieux coller à la scène du puits, c'est ce qu'a fait Botticelli. Dans un tableau, la Madone au pavillon. Si on regarde la Madone au pavillon, les proportions de l'enfant Jésus, elles sont tout à fait anormales. Le corps est trop long, les pieds sont trop courts, et même la Vierge Marie aussi. Alors nous avons lu dans un livre que en fait, il avait fait ça pour donner un caractère archaïsant. Évidemment, pourquoi pas? Il a trouvé ce système, hein, je vais faire quelque chose d'archaïsant, mais l'objectif très précisément, c'était de respecter les proportions qu'il a vues dans la scène du puits. Alors, donc ces deux doigts de l'enfant Jésus qui représentent les deux traits du sexe en érection, et les deux doigts de la Vierge Marie qui représentent les cornes. Alors évidemment, on a les deux mains qui représentent, bon, bah, les deux objets qui forment la deuxième sens de rotation, et finalement les deux objets par lesquels les amants se transpercent l'un et l'autre. Et oui. Ouais, c'est évident que le sexe transperce la femme. Est-ce que c'est aussi évident que le sein de la femme transperce l'homme? Mais. Eh oui, c'est évident. Alors évidemment, c'est pas physique. Mais encore, ça touche le cœur tellement profondément que c'est presque physique. Évidemment, l'homme, il est. Pensez à Adam quand il a vu Ève la première fois. Ah, oh, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Et il est ravi, quoi. Il est super content, il est magnifique, Ève. Hein, faut regarder ça sur le jardin des délices. Ouah, le regard d'Adam devant cette magnifique Ève, qui est probablement la plus belle Ève qui a jamais été peinte au monde. Hein. La Ève qui est sur le retable de l'agneau mystique, elle est splendide aussi, mais il semble bien que Bosch il a fait encore mieux. Eh oui, ils se sont dit, bon, ce bison, il va transpercer l'homme oiseau. Il va transpercer l'homme oiseau. Pourquoi? Eh, parce que l'homme oiseau, il n'a pas de blessure. Eh oui, le bison, il a déjà une blessure. Mais l'homme oiseau, il n'a pas de blessure. Parce qu'on est entre. Voilà, on est. L'humanité, la création a déjà commencé. Mais les choses ne sont pas accomplies. Et comme c'est une peinture prophétique, une annonce de la passion du Christ, elle a été peinte avant la passion du Christ, c'est ça qui est merveilleux. La blessure de l'homme oiseau n'est pas encore faite. Et évidemment, aujourd'hui, on dessine la blessure parce que maintenant elle a été faite. Alors, on ne va pas la rajouter sur la scène du puits, on la laisse comme elle est. Mais dans les crucifixions, aujourd'hui, on la représente. Voilà, alors ils se sont dit, bon. Qui a transpercé le Christ? Qui? Qui? Qui est coupable d'avoir transpercé le Christ? Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé dans le livre de Zacharie. Mais qui? Qui a transpercé Jésus? Qu'est-ce qui a transpercé Jésus? Quoi? Ben là, sur la scène du puits, ça les amène à découvrir la vérité. Bon, c'est très clair que la corne, elle se dirige sur le côté de l'homme oiseau. Bon, alors, c'est le bison. Et puis, si vous lisez le psaume 21, vous verrez que le serviteur, enfin, le serviteur souffrant, l'homme qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, cet homme, c'est le Christ. Il est poursuivi par des taureaux, par des cornes de taureaux. Il demande d'être délivré des cornes des taureaux. Oui, bon, ben, la passion est transpercée par des cornes de taureau, c'est très clair. Ben là, il voit cette corne de bison. Bon, mais c'est qui ce bison? Ben, c'est la Vierge Marie. Alors, qui c'est qui a transpercé Jésus? Qui? Ben, c'est Marie. C'est évident. Mais alors comment? Elles sont où ces cornes? Bah, vous regardez une femme toute nue, vous cherchez les cornes, vous avez vite trouvé. Eh oui, forcément, ce sont les saints. Alors, finalement, c'est la Vierge Marie qui a transpercé Jésus par sa beauté. Ah, les saints, ça représente la beauté de la femme quand même. Évidemment, la femme, elle est belle en entier, mais quand même, les saints, ça représente bien la beauté. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, bon, bah, l'amoureux, il est complètement béat, si j'ose dire, c'est la béatitude, oui. Il est béat devant la beauté de son épouse. Tes mamelles sont comme. Alors, je sais plus si c'est les colombes. Non, je crois que c'est les faons. Ils sont comme deux jeunes faons. Les colombes, je crois que ce sont les yeux. Il faudra vérifier. Alors, bon, voilà, il est transpercé par cette beauté de Marie. Mais la beauté de Marie, d'où elle vient? Alors, il y a cette histoire de miroir. On va pas trop encore continuer. On va arrêter le commentaire là quand même. On va pas trop se lancer dans l'histoire du miroir. Mais cette beauté, elle vient de Dieu. Et en fait, Jésus est transpercé par sa propre beauté, par la propre beauté divine qu'il a mis dans la Vierge Marie. Et il a voulu que la Vierge. Il est tombé amoureux de la Vierge Marie en pensant à elle, parce qu'il s'est dit, bon ben voilà, je vais mettre ma beauté divine sur cette femme, dans cette femme. Et ça y est, j'y pense et je suis complètement amoureux et je suis transpercé d'amour pour elle. Alors, oui, mais seulement quand il y pensait, elle n'existait pas encore. Ou en fait, tout est tellement unifié en Dieu qu'on ne sait pas trop comment ça se passe finalement. Mais enfin, il pensait à la Vierge Marie, il dit, bon ben, alors il faut que je la crée, la Vierge Marie. Puisque maintenant je suis amoureux d'elle, il faut que je la crée. Pour pouvoir la posséder, il va bien falloir que je la crée. Alors je vais m'incarner. Voilà. Et il a choisi de s'incarner pour pouvoir créer la Vierge Marie. Et puis vous savez que c'est nous tous aussi. Il a créé la Vierge Marie. Seulement pour créer la Vierge Marie, alors ça c'est le mystère de la création et de la croix, qui en fait, bon c'est ce qu'on explique dans les lettres encycliques, c'est un seul événement. Il fallait que un homme soit crucifié pour que la beauté divine habite dans la création. Parce que, tout simplement, Dieu lui-même, en lui-même, est un crucifié. Qui m'a vu, a vu le Père. Amen.